Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les Amours réunit la partie la plus célèbre de la poésie amoureuse de Pierre de Ronsard, grande figure de la Pléiade et de la Renaissance française, dans cette édition moderne. Le lecteur parcourt principalement les ensembles consacrés à Cassandre, Marie et Hélène, composés et remaniés sur plusieurs décennies avant leur rassemblement dans les œuvres du poète. Il ne faut pas y chercher un récit suivi, mais une succession organisée de sonnets et de pièces lyriques où une voix amoureuse expose ses élans, ses refus, ses regrets et son ambition de survivre par le vers. Ronsard emprunte au modèle grec, latin et italien, particulièrement à Pétrarque, tout en travaillant à donner aux Français une ampleur poétique nouvelle. Le recueil explore ainsi la beauté féminine, le désir contrarié, la fuite du temps, la présence de la nature et le pouvoir de la création littéraire. Sa finalité dépasse la confidence sentimentale, chaque poème transforme une émotion instable en forme travaillée, musicale et durable. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, trois figures féminines structurent une évolution de la poésie amoureuse, Cassandre. Marie et Hélène ne constituent pas seulement trois destinataires successives, elles permettent à Ronsard de moduler les registres, les formes et les enjeux de son lyrisme. Cassandre, associée au premier grand livre de 1552, relève surtout du modèle pétrarquiste. La dame, lointaine et difficilement accessible, est contemplée comme une beauté souveraine. Le désir se nourrit alors de distance, de frustration et de louanges. Avec Marie, le ton se fait fréquemment plus direct, plus proche des paysages ruraux et des images de la vie ordinaire. La nature y devient un argument sensible. Oiseaux, vignes, arbres et saisons rappellent que le monde entier paraît soumis au mouvement amoureux. Les sonnets pour Hélène, publiés tardivement, ajoutent une dimension plus méditative, où la beauté est inséparable de la conscience du temps et de la renommée future. Ces figures sont donc aussi des constructions poétiques. Elles ne livrent pas un portrait psychologique complet de femmes réelles, mais organisent une expérience littéraire de la passion. Cette diversité empêche de réduire le recueil à une seule posture de soupirant Ronsard, réinvente constamment la relation entre le poète, la dame célébrée et le langage qui cherche à la fixer. Deuxièmement, le pétrarquisme devient un laboratoire pour enrichir la langue française. Les Amours doivent beaucoup à la tradition de Pétrarque, un locuteur épris, une femme magnifiée, une passion à la fois exaltante et douloureuse, ainsi qu'un usage soutenu du sonnet. Ronsard ne reproduit pourtant pas passivement ce modèle italien. Son projet lié à la Pléiade consiste à montrer que le français peut porter une poésie aussi savante, variée et ambitieuse que celle des langues anciennes ou de la langue italienne. Il emprunte des formes et des procédés, mais il les adapte aux ressources sonores, lexicales et rythmiques de son idiome. La densité des images, les jeux de reprise. Les oppositions entre feu et glace, liberté et captivité, espérance et désespoir donnent une structure intellectuelle à une émotion qui pourrait paraître informe. Le sonnet impose notamment une progression, une observation où une plainte initiale se déploie, puis se resserre vers une chute, une requête ou un retournement. Cette discipline formelle ne refroidit pas le sentiment, elle lui confère une intensité mémorable. Le recueil illustre ainsi une ambition décisive de la Renaissance, faire de la poésie française un art pleinement conscient de ses modèles, capable de les rivaliser par invention plutôt que de les imiter servilement. Troisièmement, Amour exerce une puissance contradictoire de blessure et de création. Dans le recueil, la passion ne correspond ni à un simple bonheur ni à une pure plainte. Elle agit comme une force qui soumet le poète tout en lui donnant la matière de son art. Amour est souvent représenté selon les images héritées de la mythologie et de la tradition lyrique dieu armé, archer, maître impérieux ou feu intérieur. Ces figures rendent visible une expérience de dépossession. Le locuteur se dit atteint, retenu ou consumé, car son jugement ne suffit pas à maîtriser le désir. Mais cette faiblesse devient paradoxalement productive, la souffrance oblige à parler, à comparer, à inventer des rythmes et à recommencer le chant. Les contradictions du sentiment sont donc moins des incohérences que le moteur du livre. L'admiration pour la beauté voisine avec la crainte du refus. Le plaisir de célébrer la dame coexiste avec la douleur de son éloignement. Ronsard ne prétend pas résoudre ces tensions par une leçon morale univoque. Il leur donne une forme qui permet de les examiner et de les partager. En cela, Les Amours montrent comment le lyrisme convertit une expérience personnelle en objet esthétique. La douleur amoureuse demeure réelle dans la voix poétique, mais elle acquiert une durée, une précision et une portée que la seule confession ne pourrait atteindre. Quatrièmement, nature et mythologie donnent une scène visible au mouvement du désir. La nature occupe une fonction active dans Les Amours. Elle ne sert pas de simple décor aux déclarations du poète, elle offre des analogies concrètes pour comprendre la naissance du désir. La vitalité des corps et le caractère périssable de la beauté. Au printemps, les oiseaux qui se cherchent, la vigne qui enlace les arbres ou les jardins en fleurs, paraissent participer à une même énergie amoureuse. Cette harmonie peut soutenir la plainte du locuteur face au refus de la dame, puisque le monde vivant semble aimer partout où elle seule demeure insensible. Ailleurs, la rose et les cycles saisonniers rappellent que la splendeur est brève et que le temps détruit ce qui semblait parfait. La référence antique complète ce travail d'image. Dieu, héros et métamorphose élèvent l'aventure sentimentale au-dessus de la circonstance immédiate, sans la rendre abstraite. Ils fournissent un langage partagé pour nommer la beauté, la jalousie, le désir ou la mort. Ronsard joint ainsi observation sensible et culture humaniste. Les éléments naturels rendent la passion perceptible par les sens, tandis que la mythologie la place dans une mémoire poétique plus vaste. Cette double perspective explique la richesse du recueil, le sentiment individuel y résonne à la fois dans un paysage familier et dans un univers savant de référence. En dernier lieu, le vers cherche à préserver la beauté contre la fuite du temps, la conscience du temps traverse les poèmes consacrés à la jeunesse, aux fleurs, aux saisons et aux visages aimés. La beauté est intensément admirée parce que sa disparition est déjà pensable. Cette fragilité nourrit chez Ronsard une logique de célébration aimée, regarder et écrire deviennent des moyens de résister symboliquement à ce qui passe. Dans les textes tardifs, notamment autour de Hélène, cette réflexion prend une netteté particulière. Le poète rappelle que les charmes présents ne sont pas éternels et oppose à leur déclin probable la durée que peut procurer la mémoire des vers. Il ne faut pas y voir une promesse naïve de victoire sur la mort. La poésie ne conserve pas matériellement les êtres. Elle compose une image verbale, transmet une voix et inscrit un nom dans une tradition de lecture. Cette ambition explique aussi la place du poète dans le recueil. Il est un amant blessé, mais il est également un artisan conscient de son pouvoir de nomination. La dame inspiratrice devient célèbre parce que le poème la rend visible à des lecteurs éloignés de son époque. Les amours associent donc désir et postérité à la beauté, provoquent le chant, et le chant transforme la perte annoncée en présence littéraire. Cette dimension distingue la louange passagère de la véritable entreprise poétique. En conclusion, les amours conviendront aux lecteurs qui souhaitent découvrir la poésie de la Renaissance française à partir de textes brefs, exigeants et très riches en images. Le recueil est particulièrement utile aux élèves, étudiants et lecteurs de poésie désireux de comprendre concrètement le sonnet, le pétrarchisme, la Pléiade et la fonction des références antiques. Il intéressera aussi ceux qui cherchent une réflexion moins abstraite sur le désir. La beauté et le temps Ronsard ne proposent pas une théorie systématique, mais fait apparaître ces questions par la tension des images et par le mouvement même des vers. La lecture demande une certaine lenteur, car le vocabulaire, la syntaxe et les allusions mythologiques appartiennent au XVIe siècle. Une édition annotée aide donc à mesurer les choix de forme, plutôt qu'à réduire les textes à quelques célèbres formules. Par rapport à nombre de recueils amoureux fondés sur une voie uniforme, les amours se distinguent par leur ampleur temporelle et leur diversité interne. Cassandre, Marie et Hélène permettent de suivre plusieurs inflexions du lyrisme ronsardien, de la hauteur pétrarchiste à des tonalités plus naturelles ou plus méditatives. Le livre se singularise surtout par son double mouvement, il accueille la vulnérabilité du sentiment, tout en affirmant la puissance technique de la poésie. Cette alliance de ferveur, d'érudition humaniste et de travail formel explique sa place durable dans la littérature française. Si vous souhaitez soutenir Pierre de Ronsard, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.